اللهم إلا أنقلنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous avons parlé de la trêve de l'Hudaybiyah, et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de cette période de trêve entre lui et les Mécois pour d'abord propager la religion musulmane à travers l'Arabie. Il a envoyé des lettres à tous les rois et les responsables de la région. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant qu'il est assuré que maintenant du côté des Mécois il n'y a pas d'attaque, qu'il y a une trêve entre lui et les Mécois, ben il va se préparer pour quelque chose de très important. Et ça c'est quoi? C'est que quand Médine s'est fait attaquer par 10 000 hommes, 10 000 soldats sont venus pour anéantir les musulmans. Ce qu'on appelle Ghazwatul Khandaq, la bataille de la fosse. Qui était l'initiateur de cette armée? Qui était derrière tout ça? Ben, c'est les juifs qui habitent à Khaïba. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais oublié ça, que c'est à cause de ces gens-là que l'islam a failli complètement disparaître. Donc, dès qu'il a assuré le côté des Mécois, bah, il a préparé une armée pour aller à Khaïba, pour punir ces gens-là qui ont été à la cause initiale de cette bataille, la grande bataille. Et là, il faut qu'on dise quelque chose de très important. Nous, en tant que musulmans, on n'a absolument rien contre les juifs en tant que juifs, n'est-ce pas? Moussa, c'était un juif. Isa, c'était un juif. Zakaria, Yahya, Daoud, Suleyman, des gens qu'on aime, des gens qu'on respecte. Ashabu Isa, Al-Hawariyoun, les apôtres, pour nous, c'est des sahaba, c'est comme les sahaba. On les aime, on les respecte. Maryam alayhi salam, c'était une femme qui est issue de juives. Donc, tous ceux qui ont suivi Talut et les prophètes,
qu'Allah nous a raconté dans le Coran Karim, majoritairement c'était les juifs. Donc dire qu'un musulman peut être antisémite, c'est en quelque sorte attaquer sa propre religion. Nous, on ne peut pas être antisémite. On aime Isa alayhi salam, on aime Moussa alayhi salam, on aime Yaqub alayhi salam, on aime Youssef alayhi salam. Tous ces prophètes pour nous sont des exemples. Quand on cite l'histoire de Youssef, regarde, le noble, fils de noble. Donc, mais le problème qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ces gens-là, et le Coran al-Karim, quand il traite la question de Banu Israël, il ne traite pas Banu Israël comme un peuple. Il traite Banu Israël comme des gens qui ont trahi parfois, pas tous, trahi parfois l'engagement qu'ils avaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Si par exemple, et c'est pour cette raison qu'Allah nous raconte énormément l'histoire de Banu Israël dans le Coran al-Karim. Pourquoi, hein, à votre avis, pourquoi l'histoire de Moussa et Banu Israël, elle est toujours répétée? Alors que l'histoire de Youssef a été racontée une seule fois. L'histoire de Moussa est trouvée. Parce que Allah veut que les musulmans évitent les mêmes erreurs que Banu Israël ont commises. Allah veut qu'on évite de tomber dans les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'Allah nous raconte les histoires de Banu Israël. D'accord ? Aujourd'hui, même si tu as un musulman qui se dit « moi je suis musulman » et qui est injuste, en tant que musulman, tu dois être contre lui. Contre l'injustice, d'où qu'elle vient. Parce que nous, on n'est pas anti un peuple ou derrière... Non, ce n'est pas parce que tu es arabe que tu es meilleur que les autres. Ou parce que tu es juif que tu es meilleur que les autres. Non. Donc la justice, elle est très très importante dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inni harramtu dhulma wa ja'altuhu baynakum muharrama » Je me suis interdit l'injustice et j'ai rendu l'injustice entre vous interdite. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Nous, quand on dit ça, on dénonce quelque chose. On dénonce l'injustice. Même si elle vient d'un musulman, on dénonce l'injustice. Même si c'est un musulman qui dit l'injustice, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il dit à ses compagnons. Ansur akhaka zaliman aw mazluman. Sois derrière ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Et les compagnons lui ont dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, s'il est juste, bien sûr que je suis derrière lui, mais s'il est injuste, comment je peux être derrière? C'est pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, empêchez-le d'être injuste. Hein, tu prends, hein, tu lui dis, non mon frère, tu es injuste, tu lui dis. Donc cette question, et dans le Coran Karim, Allah ne généralise jamais. Quand Allah parle à chaque fois, min bani Israël. Il dit qawman min bani Israël. Parmi les enfants de. Oui, parmi eux, il y a des injustes. On le voit aujourd'hui, hein, l'injustice que subissent nos frères en Palestine, on le voit. D'accord ? Mais parmi eux, il y a des gens justes aussi. Les plus grands défenseurs de la cause palestinienne ici en France, c'est des gens d'origine juive. Ça, il y a des gens, c'est pour ça que c'est. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Un musulman ne peut pas être antisémite. Un musulman aime Moussa, Issa, Maryam. Donc, c'est impossible que je sois antisémite. Un musulman est anti-injustice. Là, oui. Si tu me dis anti-injustice, on est tous anti-injustice. Et celui qui est avec nous, anti-injustice, ben, on fait la lutte avec lui pour ses principes de justice. Là, c'est quelque chose de très important. Parce que là, on va parler d'une bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menée contre des gens qui l'ont trahi, qui ont tout fait pour anéantir l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a jamais attaqués en tant que juifs. Jamais. D'ailleurs, beaucoup de rabbins, beaucoup de juifs de Médine sont devenus musulmans. Ils étaient avec les musulmans. Beaucoup. Abdullah ibn Salam, Ka'b al-Ahbar, vous avez des rabbins. Et les savants, ils disent beaucoup de Médinois. Parce que Médine, c'était la moitié musulmane, la moitié arabe et la moitié juif avant l'islam. Et tous ces gens-là, ben, beaucoup parmi eux sont devenus musulmans. On parle même pas, sont devenus musulmans, ils ne sont même pas gardés le fait d'être juif. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut bien comprendre. Quand on raconte cette histoire de la bataille de Khaïba, on est confronté. C'est pour ça que tu trouves parfois des musulmans qui généralisent. Ah, les juifs sont tous comme ça, ou les arabes sont tous comme ça, Et ça, c'est pas une attitude d'un musulman. Un musulman ne généralise pas. D'accord ? Même dans le Coran al-Karim, quand vous lisez Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Laysu sawa'a dans le sens, ils ne sont pas tous pareils. Tu as parmi les gens qui ne sont pas musulmans, Allah parle des non-musulmans. Il dit Laysu sawa'a min ahli al-kitab. Vous allez trouver min ahli al-kitab des gens qui sont des vrais ennemis, qui déclarent la guerre, qui sont injustes avec tout le monde. Mais vous allez trouver parmi eux وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Donc parmi, Allah nous dit, attention, ne traitez pas, parce que nous on a tendance à dire, ah bah tous ceux qui ne sont pas musulmans sont tous pareils, sont tous. Allah nous dit, لَيْسُوا سَوَاءَ, ils ne sont pas tous pareils. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas musulmans qui sont justes. Il y a des gens qui sont. Avec ces gens qui sont justes, vous pouvez travailler, vous pouvez avoir des alliances, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et on a plusieurs exemples dans la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais faire cette introduction parce que là on va parler d'une bataille contre une tribu, ou même une ville qui était complètement juive, la ville de Khaïba. C'est pas uniquement la ville, mais tous les alentours, il y avait plusieurs citadelles, qui entoure cette grande ville de Khaïba, qui s'était peuplée essentiellement par les Juifs. Et les Juifs, certains de Médine sont partis s'installer là-bas quand l'islam est arrivé, ils ont quitté pour aller s'installer là-bas. Ils ont comploté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont contacté Quraysh, ils sont partis voir Atafan, ils sont partis voir Banu Salim pour leur dire on vous fournit l'argent. Et vous fournissez les hommes et les armes, et nous on est derrière vous, et attaquez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais oublié ça. Dès qu'il a eu la trêve avec Quraysh, il dit allez, maintenant c'est Khaïba. Direction Khaïba. Donc, elle se situe à peu près à une centaine de kilomètres de Médine. Vers le nord. La Mecque, c'est vers le sud, d'accord ? À peu près à 440 km, la Mecque. Vous avez Médine ici, la Mecque ici, Khaïbar, c'est ici, d'accord ? Vers la Jordanie. Donc vers le nord. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la trêve, il a dit maintenant, il faut. Al-Yahoud yajib an yuhasab, Al-Yahoud Khaïbar. C'est pas tout. Ces gens-là, il faut. Régler les comptes avec eux pour tout ce qu'ils ont fait. Parce que c'est cet endroit-là qui a tout préparé, tout comploté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est eux qui ont Hazab al-Ahzab, Azwat al-Ahzab. Qui a préparé Azwat al-Ahzab? C'est Huyay ibn Akhtab. Huyay ibn Akhtab, c'était un Médinois, un rabbin Médinois qui a quitté Médine pour s'installer à Khaïbar. Et qui avait une haine contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui a tout préparé pour attaquer Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il est revenu de l'Hudaybiyah, il est resté Dhul Hijjah, d'accord, et une partie de Muharram. Le mois de Muharram, c'est le mois actuel pour nous, d'accord, 1448, là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à son époque le mois de Dhul Hijjah et une partie du mois de Muharram. Et tout de suite après, direction Khaïba. Combien de temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut rester longtemps? Un mois et demi, il a dit l'objectif c'est Khaïba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ça quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide son prophète. Le prophète c'était un ulul azmi min al-rusul. Quand il décide quelque chose, il a des objectifs, il fixe des objectifs, il va pour le réaliser. Il ne laisse pas traîner. D'accord? Et chacun de nous doit avoir cette. Tu as un objectif, tu ne laisses pas traîner. Fixe des objectifs, tu dis je veux atteindre ça en objectif. D'ici un an, je veux faire ça. Et tu y vas, Allah t'aide. Fa'ida azamta, tawakkal ala Allah. Quand tu décides quelque chose, tawakkal ala Allah et tu verras qu'Allah te permet de réaliser tes objectifs. prophète sallallahu alayhi wa sallam, son plan était clair dans sa tête. Donc il a dit, puisque c'est bon de ce côté-là, maintenant on ne va pas laisser les choses traîner et on se dirige vers Khaïba. قال المفسرون الله سبحانه وتعالى كنت الله لي دي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. Dans sourate al-Fath, vous vous souvenez quand je vous ai parlé de l'Hudaybiyya, je vous ai dit que sourate al-Fath, c'est la sourate qui vient commenter les événements de la trêve de l'Hudaybiyya. Qu'est-ce que Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette sourate ? وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا. Quand ? Ben c'est Khaybar. Khaybar, c'est l'endroit où les musulmans vont avoir un grand butin de guerre. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ. Allah vous donne comme récompense Khaybar. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ. Donc beaucoup d'exégètes disent que quand Allah parle de maghanima kathiratan ta'khudunaha, il parle de Khaybar. Hein, regardez le Ibn Kathir et regardez-le. Les musulmans, cette fois-ci, ne sont pas tous venus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour eux, pour aller à Al-Hudaybiyya, pour aller faire la Umrah, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, les munafiqins ne sont pas partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ. Ce verset-là, les gens qui n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la Umrah. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour aller faire la Umrah, il était avec 1400 compagnons. Il y avait des gens à Médine qui sont restés à Médine, qui ne sont pas voulus venir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient des munafiqins. Munafiqins, c'est des gens qui montrent la foi, montrent l'islam, mais à l'intérieur, ils ne sont pas des vrais musulmans. Maintenant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé Khaybar, il a dit on va à Khaybar, ben, tout le monde veut venir. Même les munafiqins, ils ont dit on vient. Pourquoi ils ont dit on vient? L'argent. Ben, ils savent. Ils savent que Khaybar, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup. Donc, tous, ils sont venus, ils veulent tous venir. Sayaqul al-mukhallafun. Al-mukhallafun, c'est qui? C'est ceux qui ne sont pas venus avec toi à Al-Hudaybiyya. Sayaqul al-mukhallafun, idan talaqtum ila maghanima li ta'khudouha, dharuna nattabi'kum. Laissez-nous vous suivre. Cette fois-ci, on veut bien venir avec vous. Yuriduna an yubaddil. لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Prophète leur a dit non, ceux qui ne sont pas venus avec moi à Hudaybiyya n'iront pas avec moi à Khaybar. Ça c'était une déception pour eux parce qu'ils voulaient avoir de l'argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que personne ne sortira avec lui que ceux qui veulent vraiment fi sabilillah. Et donc il n'y a que les 1400 personnes qui étaient avec lui qui sont sorties cette fois-ci par l'exigence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, quand il sortait de Médine pour partir quelque part, de mettre un chef, une ville où des gens ne peuvent pas rester sans responsable, sans chef. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours ce souci-là. À chaque fois quand il quitte Médine, même le voyage, il dit quand vous êtes trois à voyager à trois, ben, désignez un chef. Si vous êtes trois, ben dites, toi tu es notre chef pour ce voyage. Alors imaginons que tu vas en voyage pour faire du tourisme, vous êtes quatre, ben, désignez parmi vous un chef. Ça c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Parce que si on est quatre chefs, ben, ça ne va pas marcher. Hein. Il faut un chef pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné Sabba' ibn Arfata al-Rifari. Il lui a dit, toi tu es le chef de Médine. Et le prophète choisissait toujours des personnes qui ont la capacité, les qualités humaines pour gérer, pour être des diplomates. Et ça, c'est dans les attitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et imaginez que c'est cette année-là que Abu Hurayra radiallahu anhu est venu à Médine pour devenir musulman. Pourquoi on parle d'Abu Hurayra? Parce qu'Abu Hurayra, c'était un jeune. Et c'est pas parmi les compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths. Il a rapporté presque 5000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 5000. Il a consacré sa vie à être à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'écouter et pour transmettre les hadiths. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle d'Abu Hurayra. Abu Hurayra n'est pas devenu musulman à la Mecque, n'est pas devenu musulman au début de l'islam. Non, il est devenu musulman la 7e année. Donc il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam combien d'années ?
2.
Combien ?
2.
3. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort le début du 11e, de la 11e année. D'accord ? Donc il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 ans. Hein? La 7e année, la 8e, la 9e. Hein? Je ne sais pas à quel moment. Apparemment, c'est au début, hein? Au début de la 7e année. Pratiquement 4 ans. On va dire, Abu Huraira est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquement 4 ans. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu prendre les munafiqines avec lui, qu'est-ce qu'ils ont fait les munafiqines? Ben, ils ont contacté les juifs de Khaïba. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il a envoyé, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est la tête pensante des munafiqin. C'est le munafiq le plus. C'est l'ennemi numéro un du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Il a envoyé une lettre à Médine, à Khayba. Et il leur a dit attention, le prophète Mohammed, il vient. Il n'est pas le prophète, il dit Mohammed, il est venu chez vous avec une armée de combien de personnes ? Fakhudu hidrakum. Méfiez-vous, préparez-vous. Donc, Khaïbar avait déjà l'information. Et c'était ce Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Regardez la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un munafiq qui a inventé des choses contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a inventé des choses contre Aïcha. Hein? C'est lui qui a inventé des choses contre Aïcha. Il a fait énormément de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il est mort, son fils est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un munafiq, hein? C'est un hypocrite. C'était pas un musulman. Son fils est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais son fils était un bon musulman que le prophète aimait. Il vient, ya Rasulallah, mon père vient de mourir. Est-ce que tu veux bien venir prier sur lui? C'est un munafiq. Mais il déclare l'islam. Ouvertement, il était au premier rang à la mosquée. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand son fils est venu le voir pour lui dire, ya Rasulallah, mon père vient de mourir, viens prier sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui, je viendrai. Omar al-Khattab, il prend le prophète, il dit, ya Rasulallah, comment tu vas ? C'est un munafiq. Ne va pas prier sur lui. Tu lui donnes un crédit en quelque sorte, tu lui donnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait plutôt faire plaisir à son fils. Hein, parce que c'est un père quand même, malgré tout. Il lui dit, je viens. Et là, le fils, il dit, ya Rasulallah, j'ai une autre demande à te faire. Il lui dit, vas-y, je veux ta tunique. Je veux enterrer, je vais envelopper le corps de mon père dans ta tunique. Peut-être Allah lui pardonnera. Parce qu'il connaissait son père. Il savait ce qu'il faisait, son père faisait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enlève sa tunique tout de suite, il lui donne, tiens. Il faisait toujours, il faisait attention au fils, parce qu'il connaissait le père. Le père, c'est un ennemi d'Allah et de son prophète. Il lui donne sa tunique. Après, le moment de la prière arrive. Le prophète arrive. Et Omar était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avance pour faire la prière, Omar le retient. Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'était un munafiq. Et le prophète lui dit, lâche-moi, ya Omar. Il fait la prière. D'accord. Et après, Allah révèle, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur lui, Allah lui révèle, استغفر له أو لا تستغفر له إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. الله révèle à son prophète, demande pardon pour eux, parce que le prophète a demandé pardon pour lui auprès d'Allah. Allah lui dit, demande pardon ou ne demande pardon, ou ne demande pas pardon, même si tu demandes pardon 70 fois. 70 fois, c'est pour dire beaucoup de fois. Allah ne leur pardonnera pas. Ah, c'est mon affaire. Al-Munafir, c'est pire que l'ennemi. Quand tu as un kafir devant toi, il te dit, je suis ton ennemi. Tu le sais, tu prends tes... Mais quand tu as quelqu'un qui est à côté de toi, et qui est un vrai ennemi, et qui ne t'est pas il est à côté de toi, est-ce que tu vas te méfier de quelqu'un qui est à côté? Il connaît tout sur toi. Il connaît tes secrets, il connaît... Ben, Al-Munafirin, c'est les pires. C'est pour ça qu'Allah dit, Inna al-Munafirin fi darakil asfali min al-nar. Les moulinferies seront au plus bas niveau en enfer. Pire que les ennemis ou les non-croyants. Pire. Moulinferies. Le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il a dit quand Allah lui a révélé ? In testaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfir Allahu lahum. Il dit, si je savais que si je leur donne un pardon plus que 70 fois, Allah leur pardonne, je l'aurais fait. Mais je sais que même mille fois, Allah ne leur pardonnera jamais ce qu'ils ont fait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce jour-là, l'a dit « وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ » Le verset dit « وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ » C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne pries. C'était le dernier sur qui le prophète a prié. À partir de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié sur les munafiqs. Allah lui a ordonné وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Allah lui dit, ne prie jamais dorénavant sur l'un d'eux et ne te mets pas debout devant sa tombe. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce verset, ça y est. Quand il amène quelqu'un à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, priez sur lui, moi je ne prie pas sur lui. Pourquoi? C'est un munafiq. Et les compagnons, ils découvrent, ah oui, c'est un munafiq. Parce que les compagnons n'avaient pas la liste. La liste des munafiqs, il y avait un seul compagnon qui l'avait. Il s'appelait un seul compagnon qui avait la liste. Que le prophète Hassan lui a donné.
Zayd?
Non. Celui qui détient les secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Anas.
Hudhayfa ibn al-Yaman. Jazakallahu khair. Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa ibn al-Yaman, avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. Il lui a dit, un tel sont des munafiqin. Ne prie pas sur eux. Et Omar al-Khattab, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, quand ils amènent une janaza à la mosquée, ils regardent Hudhayfa. Si Hudhayfa il sort de la mosquée, Omar il sort. Parce qu'il sait que Hudhayfa ne prie pas sur le munafiqin. Il dit aux gens, priez sur lui. Les gens, ils prient sur lui, mais l'imam ne prie pas sur lui. Pourquoi? Parce que c'est de. Quand un imam prie sur quelqu'un, c'est lui donner un crédit en quelque sorte. C'est pour ça que l'imam ne prie pas sur le munafiqin. Donc, Hudhayfa ibn al-Yaman était celui qui connaissait la liste des munafiqin. Donc les munafiqin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Abdullah ibn Ubay ibn Saloum notamment, il envoie une lettre à Khaybar, attention, le prophète arrive et il a une armée complète. Hein, il leur a dit, la takhafu minhum, n'ayez pas peur. Il dit, parce que vous êtes plus nombreux que eux. C'est vrai. Khaybar était beaucoup plus nombreux que 1400 musulmans. Il dit, ils ont peu d'armes. Donc, quand Al-Khaybar, ils ont compris cela, ils ont envoyé à Ratafan une tribu arabe à côté, il leur demande de, des hommes, d'accord, à condition de leur donner la moitié de la récolte de Khaybar. Khaybar, c'est une grande ville, c'est une région, et qui produit beaucoup de dattes. D'accord ? Beaucoup de dattes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens de Khaybar ? Ils ont appelé Ratafan, ils leur ont dit, venez nous aider contre les musulmans, et on vous donnera la moitié de la récolte. Donc, c'est quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu, il demande de l'aide à des guides. Comme je vous ai dit, Médine c'est là, Khaybar c'est là. Et la Mecque c'est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait arriver à Khaybar, mais par le nord. Parce que s'il va de Médine directement à Khaybar, il arrive du sud, n'est-ce pas? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu partir pour arriver du nord. Pourquoi? Parce qu'il veut d'abord que les gens ne fuient pas. Parce que s'ils vont sortir, s'ils vont partir, ben ils vont fuir vers le nord, ils vont partir. Hein? Ici, ils fuient vers Médine, c'est moins grave. Donc il voulait que les gens ne fuient pas vers Chem, vers la Syrie. Et la deuxième chose, il voulait aussi couper les aides qui peuvent venir de Ratafan et des autres tribus, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à un web, un endroit qui s'appelait Al-Rajir. Entre lui et Ratafan, il y avait un peu comme un jour et une nuit de marche. Ratafan se sont préparés. Ils sont partis jusqu'à Khaybar pour soutenir les juifs de Khaybar. Quand ils sont partis, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une stratégie, a envoyé des hommes pour faire croire à Ratafan que les musulmans sont venus chez eux pour les attaquer eux et non pas Khaybar. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils sont tout de suite revenus chez eux. Et donc, ils sont revenus chez eux, ils ont dit, on le laisse. Il vaut mieux qu'on assure notre propre sécurité que d'aller assurer la sécurité d'autres personnes. D'accord ? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé deux guides. Son objectif, c'est d'arriver du nord, comme je viens de le dire. Donc, les guides, parmi les guides, il y avait quelqu'un qui s'appelait Hazan. L'endroit, il s'appelait Hazan. Le guide a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que cet endroit, il s'appelait Hazan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de prendre ce chemin-là parce qu'il s'appelait Hazan. Hazan, c'est tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce sens-là. Comme je vous ai dit la dernière fois, quand Suhayl ibn Amr est venu pour négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors des négociations de la trêve, quand il a dit qui c'est, quelle est la personne que Quraysh a envoyée, on lui a dit Suhayl. Suhayl, c'est facile. Donc il a eu cette bonne nouvelle. D'accord ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce qui s'est passé pendant ce voyage, Salama ibn al-Aqwa rapporte, il dit que nous sommes partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khaybar. Et nous avons marché pendant la nuit. Un homme a dit à Amir, ya Amir, ala tusmi'una min hunayhatika. Amir, c'était un poème, un poète, un grand poète. Et donc il avait un poème lié à l'islam. Donc Amir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait cette pour que les chameaux dans une caravane, toujours chez les Arabes depuis lui. Dans une caravane, il y a un homme qu'on appelait Al-Hadi. Al-Hadi, c'est qui? Al-Hadi, c'est un homme qui chante. Et la caravane, les chameaux, subhanallah, et ça c'est par expérience, hein, Quand quelqu'un chante, les chameaux marchent beaucoup plus vite. Quand il y a quelqu'un, on l'appelle le hadi. Il y a même un poème qui parle, il y a hadi, parle des femmes sur les chameaux. Il lui dit, il y a hadi, doucement, chante doucement parce qu'il y a des perles précieuses sur les dos des chameaux. D'accord ? Parce que pour lui dire qu'il y a des femmes qui se préparent pour le mariage, marche doucement ou chante doucement parce que sinon, plus tu chantes, plus tu as un rythme, plus les chameaux te suivent. D'accord ? Et ça, c'est une réalité. Vous allez dans le désert et vous allez le voir. Hein. Toujours quelqu'un qui chante. Et quand il chante, les chameaux, et on l'appelle, il a un nom. Hadi, al-Hadi. Prophète Hassan lui dit Rifqan bil qawarir. C'est un hadith. Prophète Hassan dit à un homme qui était en train de chanter, il dit Rifqan bil qawarir. Al-Qawarir, c'est du verre qui se casse. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des femmes qui étaient sur ces chamelles-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas leur faire peur. Donc, Salama, Amr, qu'est-ce qu'il dit ? Il chante cette chanson qui est vraiment très. Allahumma lawla anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna faghfir fidaan laka mattaqayna wa thabbit al-aqdama idla illa qayna wa alqiyan sakinatan alayna inna idha sahha bina abayna wa bis-siyahi awwalu alayna. Donc ça c'est un chant que ce compagnon a commencé à dire, et quand il le disait, les chameaux donc marchent un peu, ils ont un rythme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui a plu. Allahumma laula anta mahtadayna. Regardez les paroles. Allahumma laula anta mahtadayna. Ya Allah, si ce n'est ta guidance, tes bienfaits, nous ne serons même pas guidés. Wa la tasaddaqna wa la sallayna. Ya Allah, si ce n'est ton aide, nous ne serions même pas en train de donner fi sabilillah, donner le monde, ni prier. Et ça, c'est une très très bonne compréhension. Nous, on vient à la prière, on donne la sadaqa, et on croit qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais si Allah ne t'a pas guidé vers ça, tu ne seras même pas là. Il faut être reconnaissant envers Allah, même si quand tu fais le bien, mais c'est Allah qui t'a facilité ce bien-là. Allahumma laula anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna. Ya Allah, si ce n'est pas ton aide et ton soutien, nous ne serons même pas guidés. On ne fera même pas la prière. On ne donnera même pas l'aumône. Vous voyez le sens de ce verset. Il y a فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا. Fais descendre sur nous sakina. Sakina, c'est quoi? C'est la quiétude, la sérénité. وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا. Affirme et raffirme nos pieds quand nous allons rencontrer le jihad pendant la bataille, et Allah fait que nous soyons des hommes face à l'adversaire. Inna ila sahabina bayna wa bis-siyahi awwalu alayna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui a plu. Il dit man hada as-sa'iq, qui est ce conducteur? Conducteur, c'est le hadi, comme je vous ai dit, c'est celui qui est. Man hada as-sa'iq. Certes, c'est quoi un arabe? Celui qui conduit le bus, chauffeur. Hein. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a plu. Il dit man hada as-sa'iq, qui conduit les chameaux? On lui a dit Amir ibn al-Akwa. Amir ibn al-Akwa. Qala yarhamuhullah. Yarhamuhullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qala rajul ibn al-Qawm, wajabat ya Nabi Allah, lawla am ta'tana bihi. Un homme, il dit ya Rasulullah, wajabat. C'est-à-dire, que cet homme-là, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yarhamuhullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui va être martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit à quelqu'un Yarhamuhullah sans qu'il meure pendant la bataille. Donc les compagnons ont tout de suite compris que c'est un homme qui sera parmi les martyrs de cette bataille-là. L'un d'eux, il lui a dit Ya Rasulallah, on aurait aimé qu'il reste avec nous. Mais maintenant, on a compris que c'est un martyr. Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas la science de l'avenir. Sauf si Allah l'informe. D'accord ? Allah peut informer son prophète sallallahu alayhi wa sallam par des choses qui sont de l'avenir. Et le prophète informe. Donc le prophète a reçu cette information par l'ange Gabriel que cet homme sera un martyr. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette information. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas un pouvoir divin. Attention, nous on fait bien la différence. On ne mélange pas la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne lui donne pas quelque chose qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous allez me dire, mais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su? C'est de l'avenir, ça c'est le ghaïb. Mais le prophète ne connaît pas le ghaïb, wala a'lamu le ghaïb, sauf si Allah l'informe. Et dans la sunna, Allah l'a informé de beaucoup de choses. D'accord? Beaucoup de choses, Allah informe son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ça va se passer comme ça. L'ange Gabriel descend. Par exemple, le Najashi, je vous ai dit que le Najashi est mort. Il est mort là maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ange Gabriel pour lui dire le Najashi vient de mourir. Kisra. La semaine dernière, je vous ai dit Kisra. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé la lettre, il l'a déchiré. Et Najashi a envoyé deux hommes pour aller chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam à midi. Le prophète leur a dit, restez, restez, demain je vous donnerai la réponse. Et quand ils sont venus demain, il leur a dit, Kisra est mort, tué pour son fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et son royaume va être déchiré comme il a déchiré mon livre. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Kisra, on a laissé en plein santé, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ils sont arrivés, ils ont trouvé exactement, ils ont noté la date. Ah, tu nous as dit qu'il est mort, telle date. Ils ont mis un mois pour arriver. Et quand ils sont arrivés, on leur a dit, il y a un mois qu'Isra est mort. Il est tué par son fils. Qui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah. D'accord? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Yarhamuhullah, parce qu'il savait que c'est un homme qui allait mourir fi sabilillah. Et quelle chance, quelle chance. Wa kanu ya'rifuna. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد وقد وقع في حرب خيبر. Donc là il dit, il savait que le prophète صلى الله عليه وسلم ne demande pardon à quelqu'un avant une bataille sans que cette personne ne meure pendant cette bataille. Et il est mort. Amir ibn al-Akwa est mort pendant cette bataille. C'est lui qui a dit ce poème qui était. En réalité, c'est pas, le poème ne vient pas de lui. Le poème vient d'un autre compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Rawah. C'est un grand compagnon et un grand poète. D'accord ? Mais le poème était tellement beau qu'il a été repris par plusieurs compagnons. Et là, parmi les compagnons, c'est Amir ibn al-Aqwa qui est mort martyr. D'ailleurs, ce poème-là, quand les musulmans creusaient le fossé, ils chantaient, et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils chantaient cette chanson-là. Allahumma laoula anta mahtadayna, wala tasaddaqna, wala sallayna, fa anzilan sakinatan alayna, wa thabbitil aqdama, illa qayna. D'accord. Et sur le chemin, en fait, les gens donc, ils sont passés par un wad, donc une rivière, une sèche. Ils ont commencé à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, à voix haute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, non, doucement, doucement. Allah, innakum la tad'una asamman, asamma wa la ghaiba, innakum tad'una sami'an qariba. Il dit, calmez-vous, calmez-vous. Vous n'appelez ni sourd, ni absent. Vous appelez sami'an, quelqu'un qui entend tout. Et qariba, il est proche de vous. Dites-le d'une manière plus calme. Et à un endroit qui s'appelle Sahba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté pour faire salat al-Asr. Et il a demandé la nourriture. Il a dit, donnez-moi vos nourritures. Chacun, il a amené quelque chose, donnez-moi votre nourriture. Et il n'y a qu'une seule personne qui a amené un souwayq. Al-Suwayq, c'est quoi? Al-Suwayq, c'est du blé qu'on grille et qu'on casse. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez Ruina, non? Ruina. C'est Ruina. Hein? Pour nous, c'est du blé cassé et on met un peu de sucre ou quelque chose avec, du miel, et ça devient. C'est ruina. Ceux qui connaissent ruina, c'est ruina, d'accord. En Algérie, on appelle ruina, je pense au Maroc, un peu pareil. Ou en Tunisie, je ne sais pas. Mais, et donc, on lui a amené souaïr, quelqu'un qui avait un petit sac, et dans ce sac-là, il y avait. C'est comme de la soumoule, mais naturelle, et on rajoute du miel ou du sucre. Et le prophète, il n'avait que ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il a mangé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait manger toute l'armée musulmane de ce petit sac. Et ça, c'est parmi les miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde était là. Et tout le monde a assisté qu'il y avait un petit sac. Et le prophète, il dit, prenez, prenez. Chaque 10 personnes leur donne. Ils mangent, ils ont plus faim. Prenez. Mais s'il y avait un petit sac, tout le monde a mangé de ce petit sac. Et ça, c'est parmi les prodiges qu'Allah a donné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'heure du maghrib, il se lève pour faire le maghrib. Il a mangé, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il s'est rincé la bouche, il a commencé la prière de maghrib. Et tous ces détails, pourquoi on les raconte? Parce que ces détails-là sont importants dans les règles. Est-ce que quand on mange, entre deux prières, on doit obligatoirement refaire ses ablutions? Non. Est-ce que la nourriture, le fait de manger, ça annule les ablutions? Non. Ça n'annule pas les ablutions. Tu te rinces la bouche, juste pour. Et après, tu commences la prière. La nourriture n'annule pas les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il était en voyage, il a fait le maghrib, et tout de suite après, il a fait l'isha. D'accord? Parce que c'était un voyage. Donc l'armée musulmane a passé la nuit à cet endroit-là et pas très loin de Khaïba pour que les gens de Khaïba ne se préparent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'habitude d'attaquer la nuit. Il n'attaque pas les gens la nuit, il n'attaque pas une ville la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il attend le matin. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de la sobh, il a fait la prière des ranas. Ranas, c'est-à-dire il faisait vraiment nuit. Bien sûr, le soleil commence à se lever, on voyait la lueur de le fajr monter, mais il faisait nuit. Et le musulman donc se sont préparés juste après la prière de le fajr. Et alors que les gens de Khaïba sont sortis de chez eux pour aller vers les champs. Parce que les champs, dans les villes avant, les champs sont à l'extérieur de la ville. La ville, elle est protégée par un mur, complètement assiégé, par un mur, avec des portes. Toutes les villes, c'était comme ça avant. Khaïba, c'était parmi les villes les plus. C'est une forteresse. D'accord? Et donc, le matin, après Salat al-Fajr, les agriculteurs sont sortis. Et quand, en sortant, l'armée musulmane arrive et revient en courant chez eux en disant Muhammad ou Al-Khamis, Muhammad ou Al-Khamis. Muhammad, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Khamis, c'est l'armée. D'accord? Muhammad ou Al-Khamis. On commence à. Et ça a réveillé tous les gens de la ville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar, Khalibat Khaïba. Allahu Akbar, Kharibat Khaybar, Inna idha nazalna bi sahati qawmin fasa'a sabahul mundarin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à un endroit devant la ville et on a un compagnon, même pour la bataille de Khaybar. Un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Ya Rasulallah, pourquoi tu étais installé ici ?» Et il a dit « J'ai vu que la place était bien. » Il a dit « Non, ne t'installe pas ici, Ya Rasulallah. Viens, installe-toi. Ici, c'est mieux. » Il lui a montré un autre endroit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté ce compagnon. Il a fait bouger l'armée musulmane pour qu'elle change d'endroit. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en considération le conseil de ses compagnons. Il le faisait tout le temps, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le compagnon lui a demandé, Ya Rasulallah, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné d'être ici, ou est-ce que c'est juste un avis? Le professeur Hamlio dit, c'est juste un avis. C'est pas un ordre de Dieu. Parce que si c'était un ordre de Dieu, ben, on négocie pas, on discute pas, on exécute. Mais puisque le compagnon a su que c'est pas un ordre de Dieu, il a dit à Rasulullah, ne t'installe pas ici, avance un peu. D'accord? ثم تحول الى مكان اخر صلى الله عليه وسلم. Quand les musulmans ont avancé un peu, l'armée musulmane s'est arrêtée, le prophète صلى الله عليه وسلم a fait une invocation. اللهم رب السماوات السبع وما اضلل ورب الاراضين السبع وما اقلل ورب الشياطين وما اضلل فانا لنسالك خير هذه القريه وخير اهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها أقدم بسم الله اللهم رب السماوات والأرض السماوات السبع وما أضلل هو الله سيديور دي سيت سيوت اي سكو سي سيو كوفر ورب الأراضين السبع وما أقلل le dieu des sept terres est ce qu'elle contient ورب الشياطين وما أضلل le seigneur des shayatin et de ceux qu'ils ont égarés فإنا لنسألك خير هذه القرية nous te demandons le bien de cette ville وخير أهلها le bien de son peuple le prophète n'est pas venu pour anéantir le peuple non وخير ما فيها et le bien de ce qu'il y a dedans ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. Et ça, c'est une invocation à dire à chaque fois quand vous arrivez dans une nouvelle ville que vous ne connaissez pas, ben, vous dites Bismillah, اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل نسألك أهل خير هذه القرية. Je te demande le bien de cette ville. وخير ما فيها وخير أهلها. ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها وشر أهلها. Ça c'est une invocation parmi les invocations qu'on peut dire quand on arrive dans une ville, quand vous êtes en voyage, vous allez quelque part, ben, sans dire اللهم إني أسألك خير هذا المكان وخير ما فيه وخير أهله وأعوذ بك من شر هذا المكان وشر ما فيه وشر أهله. D'accord? Et Allah, je te demande le bien de cette ville, le bien de son peuple, le bien de ce qu'elle contient et le bien qu'elle contient. Et je te demande de me protéger contre le mal de cette ville, le mal de son peuple et le mal qu'elle contient. D'accord? Un musulman est toujours en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là donc, les gens de Khaybar sont tous préparés pour affronter les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant cette bataille, il fait une déclaration la nuit. Il dit, demain, je vais donner Ar-Raya, l'étendard, à un homme qu'Allah aime. D'accord? Wa Rasuluhu. Allah et son prophète l'aiment. Et lui, il aime Allah et son prophète. Ah, c'est quel... Hein? Demain matin, je vais donner... Mais il a laissé le suspense jusqu'à demain matin. Donc tous les compagnons, Omar al-Khattab il a dit, j'ai jamais espéré être chef, mais je ne voulais pas être chef, sauf ce jour-là. J'aurais aimé être la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle. J'aurais aimé être cette personne. D'accord? Et le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève, il commence à regarder les compagnons. Et Omar al-Khattab il dit, je faisais comme ça. Peut-être il va me voir. Peut-être il va m'appeler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il regarde tous ses compagnons, il dit, Aïna Ali. Ah, il est où Ali? Ali radiallahu anhu. Ali avait mal aux yeux. Il avait une maladie. Il ne pouvait ramad. C'était quelque chose qui touchait ses yeux, il n'arrivait pas à voir dans le soleil, il baissait les yeux, c'était des... Donc on lui a dit, ah Rasulallah, Ali, mais il n'est pas capable aujourd'hui, il ne peut même pas voir. Il a dit, appelez-le, appelez-le, appelez Ali. On lui a pris la main, il était carrément au fond, et on l'a ramené jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait hein, juste avec sa salive et un peu de souffle, il met sur le visage de Ali. Et Ali dit, c'est comme si j'avais absolument rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne Ar-Raya, lui donne l'étendard des musulmans, il dit, toi, c'est toi le chef des musulmans, et c'est toi qui vas affronter le premier. Et donc, il lui dit, vas-y, avance, quand tu seras devant eux, appelle-les à l'islam. La première chose, tu leur parles, tu dis, on vous appelle à l'islam. Si vous devenez musulmans, on arrête tout. Nous, on n'est pas venus. Si vous êtes prêts à accepter l'islam, on arrête tout. Et quand ils ont dit, quand ils disent oui, voilà l'islam c'est ça, 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 et c'est fini. Alors donne. Fawallahi, regardez, le prophète Hassan fait un serment. Ya Ali, wallahi, par Allah, l'an yahdi Allah bika rajulan wahidan, khayran laka min humurin na'am. Tout à l'heure, on a dit que Khaybar, c'est une grande occasion pour gagner de l'argent, pour avoir, hein, pour avoir le butin. Fait, trois, voilà, plusieurs, on va les dire, Inch'Allah, il y a plusieurs forteresses à Khaybar, plein de, d'or et de... Et donc, les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, il lui corrige quelque chose. Ali, il y a tous les musulmans, parce que Ali est en train... celui qui est concerné par le discours, mais tous les musulmans étaient en train d'entendre, d'écouter. Il lui dit, ya Ali, si Allah guide à travers toi une seule personne à l'islam, cela vaut pour toi, c'est meilleur pour toi que Humr al-Na'am. Humr al-Na'am, c'est à l'époque, c'est les chamelles rouges, ils appellent les chamelles rouges. Et c'est les meilleures chamelles de l'époque. Une seule vaut 10 autres chameaux. C'est les meilleurs chamelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Khayrun laka min humurin na'am. Une seule personne qu'Allah guide à travers toi, c'est meilleur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de donner une leçon à tous ses compagnons. Il ne faut pas que votre objectif dans la vie soit de gagner de l'argent à travers. Non, l'objectif principal c'est que Allah guide les gens. Même si on a. Si on n'a pas de butin, mais si les gens deviennent musulmans, ça c'est notre objectif principal. Alors que le munafiqin, leur objectif principal c'est le butin, c'est de gagner de l'argent et avoir des. Fait. L'an yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am. Et ça c'est dans le Bukhari, on peut lire ce hadith là. Khaybar était divisé en deux. Une partie qui contient 5 forteresses. D'accord ? Hisn al-Na'im, Hisn al-Sa'b, Hisn al-Qal'at al-Zubayr, Hisn al-Ubay, et Hisn al-Nizam. Donc c'est 5. D'accord ? La première partie de Khaybar. Donc, et la deuxième partie, connue sous le nom de Al-Katiba, elle contient 3 forteresses. Hisn al-Qamous, Hisn al-Watih, Hisn al-Salalim. Vous avez deux parties, une avec 5 forteresses et une autre avec 3 forteresses. Donc, combien en tout il y a de forteresses à Khaybar ? 8. 8 forteresses à Khaybar. Donc, la bataille commence. Et la première forteresse que les musulmans ont attaquée, c'est Hisn al-Na'im. Et donc c'était la première ligne de défense pour Yahoudou Khaybar, parce que c'était un endroit stratégique. Ali ibn Abi Talib, il va vers ce premier Hisn et il a appelé les habitants à l'islam. Et ils ont dit non, garde ta religion pour toi, nous on ne veut pas devenir musulmans. Donc ils sont sortis et leur chef s'appelait Marhab. Donc Marhab, c'est un grand guerrier connu. Il sort de la ville et il dit Il vient pour demander qui veut se battre avec lui. Il fait un poème, il dit « قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرِّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ لَلَهَبُ » Il fait un poème pour dire « Je suis marhab, celui qui veut se battre, je suis là. » فَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرُ فَقَالَ لَهُ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكِ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ Amir, je vous ai raconté son histoire. C'est lui le chanteur. Amir ibn al-Aqwa. Vous vous souvenez de lui? C'est lui qui est le premier à demander, puisque l'autre il est sorti. Amir, il vient vers lui en disant un poème aussi. Donc, et c'est là où Amir est mort. Radiallahu anhu. Donc Amir est mort pendant, il n'a pas survécu à Marhab, parce que Marhab c'était un grand guerrier. Marhab donc se lève et il appelle à l'affrontement, et c'est à ce moment-là que Ali se lève. Ali n'a pas laissé quelqu'un d'autre, il se lève et il avance vers Marhab. Et Ali tue Marhab radiallahu anhu. Quand le chef de cette ville est tombé, la ville est tombée par la suite. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهمنا رشدنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين